Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Teasing qui vous fait la revue des films anglais avant qu'ils ne sortent en France. Fascination, hommage ou rébellion, les films de cette édition traitent tous du rapport avec une certaine autorité, qu'elle soit culturelle avec Anna Karenine ou Great Expectations, ou bien qu'on en analyse les charmes et les perversions avec ce nouveau chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson, The Master, qui sortira en France le 9 janvier. Les maîtres et les bons élèves, c'est maintenant sur Teasing. Faites-vous un plaisir coupable pour Noël. Ceux qui ne connaissent pas Joe Wright ont pourtant déjà vu au moins un de ses films. Orgueil et préjugés en 2005, puis Reviens-moi en 2007, semblait abonner le réalisateur anglais aux adaptations littéraires nationales, même si l'auteur affirmait une patte assez unique. Et s'est transformé 2 ans plus tard avec Le Soliste, avec Jamie Foxx et Robert Downey Jr. sur la vie du musicien schizophrène Nathaniel Ayers, et l'étonnant, hélas inaperçu en France, Hannah, une variation lointaine du Nikita de Besson, où une adolescente cachée avec son père dans les montagnes était formée à l'assassinat professionnel. Anna Karenine, c'est donc le retour au monument culturel, comme l'était d'ailleurs Orgueil et Préjugés. Ce sera pourtant assez loin du carcan Made in BBC, formaté par d'innombrables adaptations télévisuelles que les Anglais aiment, comme nous aimons d'ailleurs nos feuilletons Maupassant sur France 2. Les productions Working Title sont l'un des plus sérieux concurrents d'Hollywood sur le sol anglais. Ils se sont désormais spécialisés dans ces productions nationales de luxe. Ils ont produit Johnny English, ils produiront bientôt Les Misérables de Tom Hooper qui sortira en Angleterre à Noël. Joe Wright, bien sûr, ne pouvait que leur plaire, après son Orgueil et Préjugés lumineux et romantique. Il sortait surtout du carcan élégant mais assez tristement fidèle de la BBC One ou d'ITV. La virtuosité de Wright s'affiche et s'étale sans complexe. Caméra aérienne, jeu de lumière, crise et chuchotement millimétrés d'acteurs tous excellents. Appréciez sans remords la copie du Bon Élève. Comme tous les bons élèves, Wright irrite évidemment. Il produit un Pride and Prejudice plus Charlotte Bronte que Jane Austen. Il nous a donc habitués à ces délicats anachronismes temporels qui font la fraîcheur de ses films. Pas sûr que ça plaise à tout le monde de voir le grand Tolstoï remanié à la sauce baroque des opéras machines du XVIIe. Ses ballets, ses feux de Bengale. Mais bon, un feu de Bengale, c'est que de la fumée certes, mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis des feux de Bengale à Noël, ce n'est pas si grave. Il y a les bons élèves, et il y a les élèves qui bossent bien. Great Expectations de Mike Newell est lui un produit BBC pur jus. Sorti en Angleterre le 30 novembre, sa sortie en France est annoncée en février. Le cahier des charges des studios anglais n'est pas plus contraignant que n'importe quelle société de production. Et au vu de la qualité des produits, ce cahier est loin d'être malhonnête. Simplement comme pour Austin et Tolstoy, il y a d'une part une lignée cinématographique et télévisuelle très dense qui appelle au formatage, et d'autre part il y a Dickens, monstre sacré auquel on fait la révérence. Mike Newell est en général inspiré par des scénaristes et des monteurs très talentueux. Il a de la malice, mais hélas, il n'en a pas assez pour honorer Dickens. On dirait qu'il a imprimé dans sa manière de faire les mécanismes d'adaptation que lui ont imposé la Warner et Disney pour Harry Potter et le gentillet Prince of Persia. C'est ainsi que Great Expectations devient une sorte de nouvelle franchise de divertissement pour CSP+. D'où un recours systématique, assez horripilant, dit de l'appel du pied. Je veux dire par là, une référence fugace à un élément du livre qu'on n'a pas pu intégrer dans la trame, mais qu'on appuie lourdement pour se dédouaner des modifications opérées lors de l'adaptation. Faut-il, comme François Truffaut, dénoncer une certaine manière du cinéma anglais? C'est en effet une connivence trop forcée pour être un clin d'œil, trop servile au livre. Elle plaît énormément au Happy Few, et comme à l'ENS on en est, n'est-ce pas? Ça nous plaît aussi énormément tant qu'on est dans la salle. Mais beaucoup moins quand on en sort. On a en effet le sentiment, et la satisfaction un peu tiède, d'avoir vu un film où, par rapport au livre, il n'y a pas grand-chose qui manque. Si l'on savait que Great Expectations est l'archétype du roman formé par les contraintes éditoriales, on aurait pu se croire autorisé à le travestir, à le réinventer, à mettre en évidence enfin ce que la plupart des adaptations de Dickens semblent s'être acharnées à escamoter dernièrement. Ni Alfonso Cuarón, ni Roman Polanski n'ont en effet insisté sur la dimension grotesque. Polanski peut-être, allait un peu dans ce sens. Son adaptation impersonnelle d'Oliver Twist laissait transparaître la violence des rapports sociaux de l'époque, sans déguiser Dickens derrière le phare culturel de la télévision anglaise. Newell escamote, lui, le grotesque. Il se concentre sur l'aspect policier, une enquête trépidante sur les origines de La Fortune de Bib, la partie la mieux réussie du film, et la romance. La violence est présente aussi, mais un peu à la façon des épices dans un plat de nouilles. Ça ne sert qu'à rehausser la tension dramatique de flashback un peu lourdingue. En gros, tous ceux qui faisaient la qualité du roman, les conflits de génération, les jeux de pouvoir et d'intérêt, ou l'infatuation le dispute à la perversion sadique, tout ça n'a l'air que d'un accident du film, qui ne parvient que rarement à produire ces enjeux-là avec le langage des images. On se satisfera donc des images qui y parviennent. Parfois l'appel de pied marche, la danse des enfants, le chausson de Miss Havisham, le premier baiser sont des images saisissantes, rehaussées par une photo sublime. Puis ça devient charmant. Puis ça devient très très lisse. Étonnamment, la prestation des acteurs, qui sont excellents, Helena Bonham Carter en tête, tente à égaliser le film au lieu de lui prêter la rugosité qui convient à Dickens. Et Newell, hélas, a trop soin de préserver ses deux jeunes personnages principaux de l'ironie qui devrait normalement pas les épargner. C'est ainsi que, comme l'héroïne Stella, le film a du charme, mais pas de cœur. Est-ce pourtant si daté d'adapter aujourd'hui le deuxième roman le plus populaire de Dickens? À partir d'une histoire de filiation contrariée, interrompue, échangée, Dickens faisait vaciller tous les modèles d'autorité financière, juridique et politique. Les grandes espérances promises par les aînés ne sont que des mirages, pas à cause de l'insouciance des fils, mais parce que ces expectations servent les desseins obstinés, inutiles, cruels des aînés, et parce qu'entre leurs mains, les enfants deviennent les outils inconscients de luttes complètement anachroniques. À notre époque de reniement idéologique et de modèle économique malade, le grotesque de Dickens eût été salutaire. Sous le patronage d'une économie culturelle de haut vol mais un peu superficielle, on peut bien se douter que la forme va l'emporter sur le fond. Dommage que le fond et la forme y perdent tous les deux. Il me reste quelques minutes pour vous parler de Paul Thomas Anderson, et ça tombe très bien parce que dans notre numéro sur les maîtres et les élèves, contrairement aux deux autres, lui, c'est un bad boy. Il intègre l'université de New York à 18 ans pour étudier le cinéma et s'en fait renvoyer au bout de deux jours pour non-paiement des frais d'inscription, qu'il a réinvesti dans son installation à Los Angeles, en dehors des circuits académiques. La stratégie est payante puisque 20 ans plus tard, il devient avec Eastwood et Friedkin l'un des rares auteurs du circuit hollywoodien avec un cortège de films ambitieux dans la forme et indépendants sur le fond. Comme tous ses camarades de front réformés après la guerre du Pacifique, Freddy doit faire face aux difficultés du retour dans une société à laquelle il n'est plus adapté. Alcoolique, obsédé sexuel et dépressif, le voilà relâché, sans béquilles, sans suivi, sans famille. Réintégré dans la vie professionnelle avec tout l'avenir de l'Amérique de l'après-guerre sur ses épaules, si l'on en croit ses recruteurs, il survit d'expédients, met en commerce une gnôle frelatée dont il est le premier client, et parvient dans cet état sous la coupe de Lancaster Dodd, un physicien qui a chevillé au corps deux passions, la manipulation psychologique et l'immortalité de l'âme. On vous a sûrement dit, et on vous retirera encore sans doute, que The Master est une biographie romancée de Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie. Je dirais moi que si c'était le cas, Anderson aurait simplement parlé de Ron Hubbard, car d'ailleurs il se préoccupe rarement de ménager les personnes vivantes. On ne comprendrait pas cette déportation du point de vue qui nous fait accompagner le calvaire psychologique et sentimental de Freddy, et nous masque toutes les motivations de Lancaster. Philip Seymour Hoffman est le plus grand acteur du monde. Mais si vous n'allez pas jusque là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est bien dommage. Reconnaissez au moins qu'il ressuscite le spectre d'Orson Welles. Ce n'est pas par hasard, ni par affectation. C'est que la synthèse historique d'Anderson est aussi une synthèse formelle, qui relie le grand Hollywood d'après-guerre au code réaliste contemporain. C'est justement ce qui lui fait mériter son Lion d'Or, obtenu à la Mostra de Venise, sans tomber dans le pompiérisme des habituelles palmes d'or. La crise pathologique, la crise spirituelle, la crise sociale en arrière-plan, toutes sont unifiées dans une affolante synthèse de la décennie d'après-guerre. L'histoire, c'est ce qui craque, se fissure, se fragmente. The Master est peut-être le film le moins accessible de son auteur. Les nombreux personnages, resserrés dans l'espace que définit la secte, tracent un réseau d'intérêts contradictoires qu'il est parfois difficile de suivre. Mais chauffé à blanc, ce théâtre intime libère les passions et les pulsions, jusqu'au point où il nous devient impossible de différencier les images réelles des fantasmes et des souvenirs des protagonistes. Ce qu'il y a de politique dans ce film et de profondément pessimiste ne pouvait qu'intéresser l'insoumis Anderson. C'est une conception des rapports humains fondée sur un grippage généralisé de l'appréhension de l'autre. Freddy cherche un père, un ami, peut-être un amant. Lancaster cherche un fils, un disciple, un défouloir. Chacun ne se révèle in fine que le miroir de l'autre, à la fois reflet insupportable de soi-même et écran infranchissable le séparant de l'autre. C'est un jeu de manipulation et de miroir qui se joue autour de la ligne de crête, autour de la ligne de symétrie du test de Rorschach qui est le leitmotiv du film. Manipulé par l'affect ou l'image, libéré par l'image ou l'affect, The Master est une grande leçon historique, une grande leçon de cinéma, et le premier film à voir de l'année 2013. Merci d'avoir écouté cette édition de Teasing. Je rappelle qu'Anna Karenine est déjà sortie en France depuis le 5 décembre. The Master, quant à lui, sortira dans les salles françaises le 9 janvier. Quant à la date exacte de Great Expectations, elle n'a pas encore été programmée, mais ce sera probablement pour le mois de février. La prochaine émission, après Les Maîtres et les Élèves, traitera des cyniques et des bourrins, avec l'étonnant Sightseers, une comédie noire de Ben Wheatley, et le plus grand public Seven Psychopaths, avec Colin Farrell. Teasing reviendra également en janvier vous parler du Water Sprite, le plus grand festival européen de films étudiants, qui se tiendra à Londres du 10 au 14 janvier.